835 lancements.
On est à peu près au temps de Soyouz.
Malheureusement, 1986 et 2003 restent deux années noires. J'ai eu deux navettes. Ce qui fait 14 mois. Donc là, ça faisait un peu désordre dans ce nouveau projet de navette. Et en 2011, l'Américaine a décidé de abréger, on va dire, le projet de navette qui allait continuer parce que ça devenait de plus en plus dangereux. Il y a eu 800 rapports pour les participants américains. À l'été 2011, alors qu'ils n'ont pas forcément, depuis, de solution de rechange, hein, de remplacement. Donc les Américains, depuis 2011, quand ils veulent accéder à l'espace, eh bien, ils sont obligés de les payer une place de taxi chez les Russes. Mais pas du tout. Mais là, ils n'ont pas le choix. Donc, 30 ans donc, de navette, hein, 81 à 2011. Les missions les plus célèbres de la navette, hein, ça a été d'envoyer dans l'espace le télescope spatial Hubble, qui est le plus gros satellite lancé d'un seul morceau, hein, qui rentre pile poil d'ailleurs dans la soute de la navette, avec ses panneaux refermés. Hein. Et quand il a fallu X mission de maintenance sur ce télescope, changer de gyroscope, etc. Il a fallu que la navette monte à 600 pieds. C'est un fait les plus hautes missions. Hein, parce que la station spatiale, vous allez voir, est à 400 km. Donc 600 km, c'est la plus haute mission de la navette spatiale. Depuis que la navette est arrêtée, Hubble marche tant bien que mal. Hein, s'il tombe en panne, il n'y aura personne pour le réparer. Le successeur devrait arriver très vite. Hein. James Webb Telescope qui devrait prendre la suite.
Ils avaient eu des soucis avec
Pardon ?
Ils avaient eu des soucis avec Hubble au niveau des miroirs.
Ah oui, avec Hubble, il y a eu un grand souci, c'est-à-dire qu'il était dans l'espace, il était myope.
Voilà.
C'est pas le but. Donc, ils ont fait, ils ont lui envoyé une paire de lunettes.
Ouais.
Ça fait cher le panache.
Un flelot.
Oui, c'est vrai, ça a été terrible. Qui est beaucoup plus cher que prévu. Mais ce qui est assez exceptionnel technologiquement, c'est qu'ils ont vraiment mis la bonne paire de lunettes. On a vu des images, un petit peu le souffle.
Ah oui, oui.
Ça fait des années. Les images qui ont révolutionné l'astronomie. Donc, pas là ce soir pour en parler, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait. Alors, les Russes, de leur côté, les Russes, ils n'ont pas décidé d'engouffrer leur argent dans un lanceur réutilisable, comme les Américains. Ils sont restés sur leur Soyouz. À chaque lancement, il fallait refabriquer une fusée entièrement. Et ils ont décidé plutôt de mettre leur argent, dans les années 80, dans ce qu'on appelle une station spatiale. Et dont la station russe, elle s'appelait la station Mir. La station Mir, les premiers morceaux ont été envoyés en 86. Et elle est restée en orbite pendant 15 ans, jusqu'en 2001. Et vous voyez donc, elle est faite de plein de modules différents. Donc en fait, envoyer dans l'espace une station spatiale, c'est un grand mécano géant. Vous envoyez plusieurs fusées, pour chacune un morceau, et en orbite, vous accrochez tous ces morceaux. C'est une prouesse technologique assez énorme. Voilà. Donc ça, c'est les Russes qui avaient fait ça tout seuls. Ça marchait très bien. Hein. Si vous voulez la voir, la station Mir, bien qu'elle soit orbitée, vous allez à la cité de l'espace, il y en a une. Hein. Donc c'est pas loin, vous avez de la chance, c'est pas loin de Toulouse. Et vous pouvez la visiter entièrement. C'est-à-dire que ceci n'est pas une maquette de la station Mir, c'est une vraie station Mir. Dans le sens où elle a été achetée aux Russes, et c'était le module dans lequel s'entraînaient les cosmonautes avant d'aller dans la voûte. Donc, à l'intérieur, vous n'avez pas tout à l'identique. C'est donc bien une idée de ce qu'est une station spatiale. Donc, en 2001, les Russes ont désorbité leur station pour deux raisons. La première, le côté vétuste déjà du matériel, il pouvait 15 ans que c'était dans l'espace. Hein. Il y avait déjà eu des soucis de sécurité, il y avait un module qui avait des problèmes de dépressurisation, tout ça, donc qui était temps de terminer. Mais surtout, ceux qui les ont un peu poussés à accélérer le mouvement, c'est les Américains. Parce que les Américains avaient un peu les boules, on va dire, que les Russes avaient leur station spatiale et pas eux. Donc les Américains ont proposé à la communauté internationale, alors quand je dis la communauté internationale, c'est, on va voir les pays qui ont accès au spatial, hein, pas beaucoup, vous verrez, de créer ensemble une station spatiale internationale. Et donc ils ont proposé aussi aux Russes. Les Russes ne pouvaient pas entretenir et la station Mir et leur part dans ISS. Donc c'est ce qui les a aussi poussés à désorbiter 2001, en 2001. D'autant plus que la station spatiale internationale, que vous avez là, elle avait déjà commencé à être construite dès 1998, 3 ans avant la désorbitation de 2001. Donc depuis 1998, il y a des morceaux qui ont été emmenés, et à l'heure actuelle, la station ISS est 4 ou 5 fois plus grosse que la station Mir. Et avec ses panneaux solaires déployés, exactement comme sur cette photo, ça a à peu près la superficie d'un terrain de foot. C'est énorme, vous avez un terrain de foot qui passe au-dessus de vos têtes régulièrement. Et je vous expliquerai tout à l'heure, on peut le voir à l'œil nu. Pas besoin de télescope, de choc particulier. Voilà, donc 98-2017, on est presque aux 20 ans d'ISS. Ce qui veut dire qu'il va falloir peut-être songer à remplacer. Voici une navette spatiale, et vous voyez, comme ça, elle est accrochée sur la gauche à la ISS. Vu que les navettes ont œuvré jusqu'en 2011, elles sont allées régulièrement s'accrocher. Donc à 400 km. Voilà à quelle altitude se trouve Thomas Pesquet. Il est dans cette station, à 400 km, ce qui n'est pas très haut. 400 km. C'est pas très loin. 400 km, vous n'avez même pas traversé la France. Si vous faites ça horizontalement. Vous êtes juste au-dessus, il est à Limoges, quoi. Il est pas loin, hein. C'est un truc incroyable. Pas si loin que ça. C'est ça, ça va pas tarder. Et en fin de compte, il est quand même au-dessus de l'atmosphère. Alors là, on le voit bien. Regardez bien. C'est là qu'on se rend compte sur une photo comme ça. C'est magnifique. De l'atmosphère, ça n'a rien du tout. Voilà le ciel bleu. Le grand ciel bleu que vous avez au-dessus de vous. Vous avez l'impression que c'est à perte de vue, ce ciel bleu. Non, c'est une fine couche de gaz ici, qui fait une trentaine de kilomètres. Pas plus. C'est-à-dire que là, c'est même pas Limoges, c'est même pas Toulouse. Hein. C'est fini, vous êtes sorti de l'atmosphère. Hein. Alors, trentaine de kilomètres pour le ciel bleu. Après l'atmosphère, on l'a fait monter à peu près, parce qu'il nous faut une limite théorique, à 100 kilomètres. On dit qu'à 100 km, au-delà de 100 km, on est dans l'espace, dans le vide spatial. Hein. Mais je veux dire qu'à 30 km, le ciel il est plus bleu. Il va être noir, comme dans l'espace. Voilà, donc il est bien franchement au-dessus de l'atmosphère, à 400 km. Dans le vide. Alors ça c'est important, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous faire passer quelques notions de physique aussi. Il y a beaucoup de gens qui mélangent des tas de choses. Ils pensent que Thomas Pesquet, il est en apesanteur, là, il est en apesanteur, parce qu'il est dans le vide. Pas du tout. Hein. Vous allez voir que c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Alors on va essayer de faire tout ça. Avant, on va faire un peu de géographie. Les partenaires d'ISS. Les partenaires d'ISS, on va faire un tour de drapeau en temps. Celui-là, on ne les avait pas vus encore. C'est le Canada. Voilà, le Canada. Il investit pas mal dans l'ISS, notamment le bras manipulateur, qui s'appelle le Canadarm. Ensuite, on a bien sûr les USA, qui sont les principaux investisseurs de l'ISS. Puis ensuite, ben, j'ai pas mis la France, j'ai mis l'Europe, hein, c'est l'ESA. Donc, l'ESA, on verra dans le détail quel pays. Ensuite, on a bien sûr les Russes, donc on a vu, hein, ils sont dans la partie. Ouais. Par contre, c'est vrai que c'est un des rares endroits, ISS, où les Russes, les Américains, les Européens s'embrassent.
Ouais.
Pas mal.
Et vous avez un peu la notion.
Sur terre en moins. Hein. Tu as remarqué, sur terre en moins.
La notion de prix de la station, à peu près.
Alors là, je ne sais pas. Ça, c'est les chiffres astronomiques.
Astronomiques.
C'est comme l'astronomie. Au-delà d'un certain nombre de zéros, ça ne nous dit plus rien.
À ce point-là.
Quelques centaines d'euros.
Par contre, c'est un grand débat. Un grand débat. Est-ce que ça vaut le coup d'investir autant pour ce genre d'outils?
Alors, je peux vous dire une chose.
Oui.
Parce que j'ai un ami qui travaille au CNES.
Oui.
Et l'investissement spatial a un retour sur investissement d'un coefficient 6.
Ouais, ça, c'est le discours du CNES.
Oui, certainement.
Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain.
Mais tous les gens que j'ai rencontrés, moi j'ai travaillé 10 ans dans la Cité de l'Espace, on nous a expliqué que tout ça était bien sûr rentable. Hein.
Moi, je peux vous dire qu'elle fait la prospective pour les satellites de Tchernobyl. D'accord. Et puis, il y a un retour sur investissement.
Ah oui, alors ça, d'accord.
D'un coefficient 6.
Oui. Non, ça, je suis d'accord. Sur le spatial en général, bien sûr que c'est très profitable. Hein. Mais sur ISS, en particulier, je peux vous dire qu'il y a des dents qui grincent.
En retour sur investissement direct, mais après, il y a tous les retours sur investissement indirect. Comme vous citiez les couches sans les nommer tout à l'heure, avec les petits actifs sur le côté.
Ça,
il faut.
Tout à fait. Mais bon, c'est vrai qu'ISS, c'est quand même le satellite qui coûte le plus cher. Hein.
Tous les pays d'Europe ne participent pas.
Alors là, j'y arrive. Maintenant, il nous manque un partenaire. La Chine. Justement, je vous attendais. Les Chinois, ils font bonne d'affaires.
L'Australie.
Et non plus.
Le Japon.
Voilà, le dernier partenaire, c'est le Japon. Avec la JAXA. La JAXA, c'est la NASA japonaise. Qui sont bien présents. Les Chinois, ils ne veulent pas partir. Les Chinois, ils font bande à part de leur côté. Ils sont bien plus nombreux que tous ces gens-là réunis. Et ils ont des budgets, ils ont un savoir-faire. Et ils sont en train de doubler tout le monde. Hein.
Est-ce qu'il y a des problèmes avec le USA aussi parce que c'est des embargos ou des choses électroniques avec la Chine?
Oui, oui. Après, c'est très politique, tout ça. Hein. C'est-à-dire, vous avez, et on va parler de l'Inde, il faut savoir que l'Inde a un programme spatial. Hein. L'Inde a un programme spatial, tout comme la Chine. L'Inde est plutôt soutenue par les USA, et la Chine est plutôt soutenue par la Russie. C'est-à-dire que les Russes, les Chinois, quand ils partent dans l'espace, leur vaisseau spatial, il ressemble étrangement à une Soyouz. Voilà, donc... Alors, on va poser la question sur l'ESA. Voilà une carte de l'Europe où on a les différents partenaires de l'ESA. Ceux qui sont en gris foncé, ce sont vraiment des partenaires officiels. Après, il y en a certains qui voudraient y rentrer, et un peu de couleur à partir. Les deux principaux pays, c'est toujours pareil, hein, c'est la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne, je vous ferai remarquer que malgré le Brexit, les Anglais sont toujours dans l'ESA. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas l'Europe économique, ça. Hein. Ouais, c'est l'Europe spatiale.
Il a pas commencé le Brexit.
Voilà, en plus, il n'a pas commencé. Ils sont toujours là. La France, très importante dans l'ESA, à cause surtout aussi de Kourou. Les fusées, la fusée européenne, qui est la fusée Ariane, décolle depuis donc l'Amérique du Sud, depuis la Guyane française.
Quand il n'y a pas de grève, oui.
Il y a le Kourou à Kourou. Il y a le Kourou à Kourou.
En ce moment, oui, en ce moment, j'ai entendu.
Le Kourou, c'est...
Ils ne sont pas d'accord.
Ils avaient bloqué le Kourou.
Oui. Vas-y, une photo de Kourou. Ça, il fait beau. Mais c'est depuis 81 aussi. Hein, c'est-à-dire en 81, je vous ai donné beaucoup de dates. Hein. C'était la première navette spatiale américaine. C'est la première Ariane. C'est l'Ariane 1. c'est 1981, à Kourou. Mais je ne vais pas trop en parler ce soir. Pourquoi cette fusée? Quel est le sujet de la soirée?
L'homme dans l'espace.
C'est l'homme dans l'espace. Et avec cette fusée, il n'y a pas d'homme qui part. Hein, il ne part pas. D'accord? Donc c'est uniquement une fusée pour lancer des satellites.
Satellite, ouais.
À une époque, on avait prévu de mettre en haut de la fusée une navette européenne. Hermès. Voilà, Hermès, qui a été abandonné. Ouais. Ouais. Des obscures raisons politiques aussi.
Financières.
On a pu avoir un accès à l'espace comme les Russes, les Américains, les Chinois. Ça ne s'est pas fait. Donc on ne parlera pas trop d'Ariane ce soir. Le voici, notre premier taïkonote, regardez comme il est content. 2003, donc ça fait 14 ans hein, que les Chinois sont devenus la troisième puissance à envoyer des hommes dans l'espace avec leur fusée Longue Marche.
Et dans la fusée Longue Marche, après le premier, après Gagarine.
Pardon ?
Combien de temps après ?
Eh bien, 1961-2003, ouais. 42 ans. 42 ans après. Un troisième pays.
Mais la chronologie est très importante, hein, finalement, parce qu'il y a des chevauchements, il y a des gens qui travaillent seuls, il y en a d'autres qui se regroupent.
C'est ça, c'est ça. Mais les Chinois rattrapent leur retard très très vite. Hein. Je peux vous dire, mais ils sont en train de doubler tout le monde. Il n'est pas quand même pas. Voilà, donc là, dans la fusée Longue Marche, c'est comme la fusée Soyouz, vous avez trois taïkonautes qui peuvent monter. Hein. Voilà. La station spatiale chinoise. Alors, à l'heure actuelle, la station spatiale chinoise, je dois dire qu'elle ressemble à un Soyouz. Voilà. Ils espèrent, en 2022, accrocher quand même 3-4 modules, et ça va ressembler à une station Mir de l'époque. Hein? Voilà. Donc, ils font leur petite station spatiale dans leur coin.
Mais il y a probablement des contraintes techniques qui font que beaucoup de ces choses se ressemblent.
Oui, de toute manière.
Tant mieux, on pourrait parler des Américains, les Chinois, les Américains.
De toute manière. Mais quand elles se ressemblent vraiment, là,
c'est de la chose. L'espionnage industriel.
Soit de l'espionnage, soit de l'aide.
De l'aide. Oui, de l'aide. L'aide, oui. Mais c'est plutôt de l'aide à ce niveau-là.
Voilà, là, alors, on va faire un petit résumé donc, de toutes ces fusées, parce qu'on commence à s'y perdre. Hein, voici toutes les fusées dont je vous ai parlé. À gauche, vous avez le Soyouz russe. Est-ce qu'il peut emporter des cosmonautes? Oui, et combien?
Deux.
Ah, j'ai entendu deux.
Non, on croit.
Donc, effectivement, on peut avoir trois personnes. La prochaine, c'est la fameuse fusée Apollo, Saturne 5. Elle pouvait emporter trois astronautes, mais elle fait un service. Donc, Camille. La prochaine pouvait emporter sept astronautes. Mais, dans nos portes américaines, là, ben, ils ont fait de l'ancien. Ensuite, on a la fusée Ariane 5 qui marche très bien, mais elle n'envoie pas
de bonhomme.
Et la dernière, c'est la Longue Marche chinoise qui peut envoyer trois taïkonautes. Donc, vous voyez bien que si vous voulez partir dans l'espace à l'heure actuelle, vous n'avez que deux fusées. Soit les Russes, soit les Chinois.
Mais exact. Hein?
Oui.
À Ariane 5, il y a déjà mieux. Ils en sont à Ariane 6, non?
Alors, c'est le projet.
Elle est beaucoup plus grosse.
Elle n'a pas encore décollé, Ariane 6. Hein.
Mais elle est beaucoup plus grosse.
Alors, elle n'est pas beaucoup plus grosse. Non, elle sera technologiquement plus puissante, mais elle sera plus petite qu'Ariane 5.
Ah bon?
Oui, elle sera déjà beaucoup plus petite qu'Ariane 5, mais bon, avec une technologie beaucoup plus avancée.
D'accord.
Hein, Ariane 5, elle a déjà plus de 10 ans.
Ariane voilà. 5 a déjà envoyé...
Un vaisseau
pour sa marée.
Tout à fait. C'est-à-dire des vaisseaux cargo, comme celui-ci, hein, sont déjà partis grâce à Ariane 5. Hein. Mais ça n'en fait pas des vaisseaux habités.
Mais on pourrait imaginer qu'on pourrait basculer vers...
on pourrait mettre des hommes là-dedans, peut-être. Pourquoi pas? Mais bon, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Alors, maintenant, on va faire rapidement le tour du français. Hein. Le premier français dans l'espace, certains s'en souviennent ici, bien sûr, il y en avait deux. Donc, c'est Jean-Luc Chrétien. Vu comment son nom est traduit ici, il est parti avec les Russes.
C'est rapproché de Dieu.
Elle était facile, celle-là. Ouais.
Il fallait la trouver.
Et le dixième. Le dixième, donc c'est tout à pesquer.
La femme.
Alors, où sont les femmes? Voilà. Alors, je vous ai mis là une photo assez incroyable. On a réussi à attraper les 10 passionnants français le même jour, au même endroit.
Il manque la fille.
Combinaison.
Non, elle est.
Vous les avez tous.
Et vous la voyez?
C'est-à-dire
la septième, en partant de la droite. Ouais. C'est de la gauche.
Là, vous avez donc Jean-Pierre qui est maintenant. Hein. Oui. Le jeune Thomas Pesquet, magnifique.
Oui, oui.
Et
la dame.
Et Claudie.
Claudie Aigneret. La seule femme astronaute française.
Wow.
Première astronaute européenne. Voici notre équipage qui est à l'heure actuelle en train de tourner autour de nos têtes. Donc il y a Peggy, Oleg et Thomas. Donc Peggy, c'est une américaine. Oleg est un russe et Thomas c'est le français. Donc vous les avez à gauche devant la fusée Soyouz qui est couchée. Hein. Et puis ensuite à droite, en combinaison. Très défaut. 6 mois dans l'ISS. Alors au départ c'était prévu de novembre à mai. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le fait qu'on est retardataire, c'est le 2 juin. Donc, son retour est prévu le 2 juin. Et il a eu droit à 7 ans de formation. C'est pas qu'il faille 7 ans pour se former. C'est que ça a été le dernier des Européens sélectionnés à décoller. Donc, du coup, il a resté très longtemps au sol. Hein. Et du coup, il est très très bien formé, 7 ans. Alors, on va voir à quoi correspond cette formation. Il y en a qui veulent postuler. Donc.
C'est un peu trop tard pour nous, je crois.
Déjà, première attraction,
ça, c'est terrible.
La foire du trône. Vous pouvez la centrifugeuse.
Oh mon Dieu.
Donc vous rentrez par la passerelle, là.
7G.
Et puis on vous fait tourner. 1G, 2G, 3G, jusqu'à 7G. Ce qui est énorme. 7G, donc je rappelle, la sensation de faire 7 fois votre poids. En fait, on vous fait tourner jusqu'à ce que vous tourniez de l'œil.
Ouais.
De toute manière, un jour ou l'autre, on tourne tous de l'œil, hein, c'est le genre de manège. Et si vous tournez de l'œil trop vite, ben c'est fini. On passe à un candidat suivant.
C'est pas très agréable d'ailleurs.
C'est pas très agréable du tout, hein, parce que si vous tournez de l'œil, vous êtes voilà.
Non, mais il n'y a pas que tourner de l'œil, c'est l'estomac aussi.
Voilà, le vomissement, tout ça. Alors, les pilotes de chasse font ça régulièrement, c'est pour ça que beaucoup d'astronautes sont déjà pilotes de chasse, à la base. Hein. Ce qui n'est pas le cas de Thomas Pesquet. Il n'est pas pilote de chasse, lui, il est pilote d'avion, mais dans le civil. Il était pilote chez Air France. Il pilotait des Airbus. Hein. Mais c'est vrai que c'est des gens qui sont très, très entraînés. Claudie Aigneret, c'est une des rares qui viennent du civil, qui est une médecin. Hein, donc, mais... physiquement. Alors vous entraînez aussi, vous avez à Mérignac, donc l'aéroport de Bordeaux, un Airbus très spécial, un A300 0G. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un avion qui vous permet de simuler l'apesanteur. Alors quand je dis l'apesanteur, je veux dire surtout l'impesanteur, moi, parce que quand je dis l'apesanteur, vous ne savez pas si je dis LA ou l'apostrophe A. Hein. Quand je dis l'impesanteur, c'est clair. Et donc c'est les synonymes apesanteur et impesanteur. À l'oral, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça simule l'impesanteur, ça. Je vous ai expliqué comment. Hein. Ça, c'est la queue de l'Airbus 0G. Il y a l'évolution de l'homme, là. Hop, il décolle dans l'espace, après. Donc Thomas Pesquet, qui est allé X fois dans cet avion, pour s'entraîner à ce qu'il allait vivre après pendant 6 mois. Hein. Dans cet avion, il y avait aussi les Chinois. Parce que les Chinois n'ont pas un avion comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que 2 avions comme ça au monde. Il y en a un chez les Américains et il y en a un chez les Français. Et alors, figurez-vous que dans ce même avion, il y avait votre serviteur. Donc j'ai eu la possibilité de voler dans le 0G, en compagnie de Thomas Pesquet. Il s'entraînait quelques mètres plus loin à faire du free floating, ils appellent ça. J'ai été malade comme un chien.
C'est ça,
là-dedans peut-être, hein, je ne sais pas. Alors, comme un chien, c'est pas vrai. Vous allez voir, on va faire là-dedans 30 cloches. 30 fois le manège.
Combien de temps avez-vous pu tenir, rester ?
J'ai tenu 5 fois. 5 fois, ça allait. Et puis, effectivement, les liquides se déplaçant avec des jets non négligeables. Au bout d'un moment, vous allez vous asseoir, vous êtes un peu barbouillé. Avant, je n'ai pas vomi triplé boyau, mais j'étais quand même bien barbouillé.
On le fait en statique au sol ou en vol ?
En vol.
Alors, vous allez voir. Il faut automatiquement voler. Voilà le principe de cet avion. Et c'est là que vous allez comprendre un peu ce que c'est que l'impesanteur. C'est pas du tout la peine d'être dans le vide. Là, on n'est pas dans le vide, on est dans l'atmosphère terrestre, hein, avec cet avion. Dans notre Airbus, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va tout d'un coup se mettre à cabrer. Mais cabrer à 47 degrés. Ce qui est assez terrible. Et pour faire ça, il va devoir mettre la gomme et vous allez ressentir 2G. Ça vous fait marrer par rapport aux 7G de la centrifugeuse, mais 2G, je peux vous dire que vous êtes collé à votre siège, vous faites plus 80 kg, vous en faites 160, et vous vous amusez pas à trop tourner la tête d'un côté ou de l'autre, parce que vous risquez de tourner de l'œil. Donc on vous dit, gardez la tête droite, et vous êtes enfoncé dans votre siège, et vous attendez que le pilote arrête les moteurs. Parce que ça n'a rien. Moins qui veulent monter, déjà de suite, je vois. Le pilote arrête le moteur.
Et sur quel type d'Airbus ils le font ?
Ça, c'est un A300.
A300.
Un A300 modifié. Oui. Et à partir de là, l'Airbus n'est livré qu'à sa seule trajectoire balistique, on va dire. Donc l'élan qu'on lui a donné. Donc il va monter en ralentissant. Et puis il va pas pouvoir aller plus haut, et puis il va redescendre pour s'écraser. Et puis là, avant de s'écraser, je vous rassure, on rallume les moteurs. On va avoir confiance au moteur qui va se rallumer. Et pour récupérer votre assiette. Alors, le gros problème au point de vue des liquides que vous avez dedans, c'est que vous êtes à 2G, et là, instantanément, vous passez de 2G à 0G. Donc, vous avez, comme c'est les dodanes. Donc passer de 2G à 0G pendant 22 secondes. Là vous êtes en impesanteur. C'est-à-dire tout se met à flotter dans l'avion. Plus rien n'a de poids, en fait. Et donc vous pouvez soulever un éléphant avec le petit doigt. C'est incroyable. Cette sensation pendant 22 secondes, et au moment où on remet les moteurs ici, vous repassez de 0G à 2G. De suite. Hein. C'est-à-dire que si vous étiez en train de vous batifoler dans le haut de votre cockpit, bim. On vous rappelle instantanément. Et cette cloche-là, elle est répétée 30 fois. Donc si vous êtes malade, le manège ne s'arrête pas de suite. Alors je montre une petite vidéo.
De quel côté ça se fait, ça ?
Ça se fait au-dessus de la boîte de l'eau.
Voilà. Et ça sert qu'à l'entraînement des stationnaires ?
Ouais. Non, plein d'autres choses. C'est des expériences en impesanteur là-dedans. Hein ? Voici les pilotes. Ah, oui. On décolle de Bordeaux, comme j'ai dit. Et puis on va au large de la Bretagne. Alors, il y a quelques sièges devant et derrière qui sont gardés pour le décollage et l'atterrissage. Et puis au milieu, tous les sièges sont enlevés pour pouvoir installer tous les gens qui font des expériences là-dedans. Là, vous avez Jean-François Clairvoix, qui est un des 10 astronautes français, qui s'occupe de cet avion. Et puis là, on cadre, regardez bien, c'est assez impressionnant. Voilà.
C'est impressionnant. Oh là là. En effet.
Voilà.
Oh là là.
Pourquoi ça s'arrête ?
Ça devient un avion de chasse.
Oui, c'est l'inertie de l'avion qui nous permet.
Et nous voici en impesanteur. Donc là, moi, je suis assis sur un siège. Les missions orange sont là pour la sécurité. Hop, ça y est. On a des moteurs. Tous les gens en bleu sont des gens comme moi qui sont là pour faire des expériences. Voilà, regardez.
Où est-ce qu'on y a ?
Alors celui de droite, il gère pas trop. Voilà, celui d'orange, il a compris que ça allait remettre les gaz. À droite, il n'a pas compris. On va prendre 2G. Vous avez pris 2-3 gamelles. Vous avez le compte à rebours, vous mettez le... Alors, moi je faisais pas d'expérience là-dedans, j'étais un peu invité, donc c'était bien. Je vous avais amené des petits trucs à faire voler et à filmer. Donc je vous ai amené le petit prince de Sestex, regardez, il n'avait jamais volé. Et voilà. C'est tout seul. Il a fait une galipette, là, attention. Hop. Et voilà.
Ouais.
Là, ça a duré 22 secondes.
Incroyable.
Alors, dans quelques jours, le 9 mai, là, je dois faire une conférence à la Pupale, l'autre petite université populaire, sur le film de Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, du coup, j'ai pas résisté à l'envie de faire voler le livre, quand même, à l'imposanteur. Oui. Voici le roman de Kubrick, d'Arthur Clarke. Voilà, monolithe qui vole. On s'amuse bien, même ça. Je vais m'échapper.
Oui.
Non, ça va. Alors, vous pouvez le faire, ça, si vous voulez. Ça, c'est possible. Le vol de Thomas Pesquet, c'est plus compliqué. Mais ça, vous pouvez le faire, il vous faut 6 000 euros.
Ah ben, ça va, 22 secondes, 6 000 euros.
Vous pouvez faire offrir pour votre anniversaire.
Ah oui, 30. Oui.
Voilà, donc 6 000 euros, depuis 2-3 ans, le CNES a mis en place comme ça le service commercial.
6 000 euros pour reprendre.
Oui, mais les 30 fois, les 30 fois, les 30 fois, 30 fois.
32 fois.
Les 6 000 euros.
Hein,
les vols. Pour faire les 30 cloches. Les 30 cloches.
Alors non, je crois qu'à 6 000 euros, vous n'avez que 20 cloches.
Oh ah, ça fait du 400, 500 euros.
C'est plein.
Ah bon?
Il y a une liste d'attente.
Non.
D'ailleurs, je vais faire un petit sondage. Qui, même si on le lui offrait, on va dire, qui est prêt à faire ça?
Ah ben, oui. Oui.
4 ou 5, qui est sûr de ne pas y aller? Ah oui, oui. On n'est pas prêt de déménager de la planète.
Non.
Alors, on continue notre formation. La formation en piscine. Parce que... C'est vrai que cet avion, ça coûte cher. Hein. Le meilleur moyen de s'entraîner en n'ayant plus trop le poids de son corps, c'est faire ça en piscine. Et là, vous avez la plus grosse piscine au monde, je pense, dans laquelle on a immergé une station ISS. Hein. De manière que les astronautes se déplacent là-dedans, qui connaissent parfaitement la géographie de la station, quand ils font notamment leur sortie extravéhiculaire dont on va parler. Formation au pilotage, évidemment.
Les États-Unis.
Il faut connaître le moindre bouton et du Soyouz et l'ISS. Alors, vu qu'ils sont pilotes la plupart du temps, ils sont habitués à ce genre de formation.
La station qui est immergée, elle est aux États-Unis, non?
Oui, aux États-Unis. Ouais. Ça, on y pense moins souvent. Mais il y a un entraînement à la survie. Alors, pourquoi? Dans l'espace. Mais si, c'est parce que des fois, vous pouvez très bien ne pas atterrir là où on vous attend, quand vous revenez. Et là, vous faut être capable de vivre pendant 2-3 jours, hein, après avoir pris 9G en plus, en attendant que les secours arrivent. Vous savez, le barbecue. La vie en impesanteur, voilà, déjà, être en impesanteur, c'est. Quand vous n'y êtes pas 22 secondes, mais 6 mois, c'est qu'il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Drôle de sensation, mais que là, on a dans tous les sens.
C'est terrible. Hein.
Non, on a 13 spationautes en même temps, c'est un record. Par contre, vous n'êtes pas dans le vide. Vous êtes dans l'air. Hein, vous avez une atmosphère artificielle, vous êtes en survêt, tranquille, mais vous ne pesez plus rien. D'accord ? Et ce que vous mangez non plus. Donc les bombes se baladent.
Ah, oui.
Tout est attaché au mur avec les tendeurs, les scotch, les velcro.
Et dormir attaché.
Et alors dormir, mais voilà. Dormir, vous pouvez dormir très bien debout. Vous n'avez pas la notion d'être debout. Donc. Vous pouvez attacher n'importe où avec un sac de couchage. Vous fermez votre sac de couchage comme il faut, parce que sinon vous risquez de partir vous cogner pendant la nuit quelque part. Hein, donc
histoire de dormir debout.
Passer 8 heures de sommeil, tout à fait, sans problème. Les toilettes. Souvent, comment on fait pour faire petite et grosse commission?
Non, on ne veut pas savoir.
Et alors là, effectivement, tous les liquides sont automatiquement en pesanteur. Le moindre liquide se met sous forme de boule. Hein. Donc, si vous faisiez pipi comme ça, ça ferait des boules d'urine, ça ne serait pas de meilleur effet.
Oui, c'est vrai.
Chez moi, ça ferait beaucoup. Donc, en fin de compte, chacun a un embout. Et les embouts pour les femmes aussi, hein, munis d'un aspirateur. Donc, on aspire l'urine, ce qui permet de ne pas avoir des bulles d'urine, mais surtout, qui permet de récupérer l'urine pour la recycler et refaire de l'eau. Parce que l'eau, c'est ce qu'il y a de plus important, de plus cher, de plus précieux dans la station spatiale. Donc on refait de l'eau avec l'urine.
Par contre, on boit le cholestérol qu'on a éliminé, quoi.
Si vous voulez. C'est comme qu'on est filtré.
Transformé.
Et la grosse commission, mais on la récupère aussi avec des aspirateurs dans des sachets. Hein. Et qu'on va ensuite renvoyer dans l'espace. Ah bon ?
Là bon ?
En tout lieu comme ça ?
C'est du joli, ça.
C'est dommage,
ça. Alors vous êtes obligé de faire 2 heures de muscu par jour. 2 heures de gym. Parce que, puisque plus rien ne pèse, vous ne faites plus aucun effort. Donc vos muscles fondent, vos muscles s'atrophient complètement. Et donc vous êtes obligé de faire beaucoup de traction avec des ressorts, des sortes de choses, des sangles, à peine de soulever des haltères, ça pèse rien. Notre système pour se muscler. Il y a aussi un autre problème très important. Alors je vous parle d'abord de la circulation sanguine. Quand vous êtes en impesanteur, les 5 litres de sang que vous avez dans le corps humain, ils ne sont pas dans vos jambes, comme actuellement. On parle de monde avec des grosses jambes parce que 5 litres de sang sont plutôt par là. Et on a une pompe de ce côté qui renvoie un petit peu quand même ici pour réfléchir un petit peu. Hein. Un petit peu de sang qui remonte. En impesanteur, les 5 litres de sang sont répartis uniformément dans tout le corps. Donc vous avez les jambes comme ça. Et vous avez une tête comme ça. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un sacré mal de tronche, le premier jour, et puis ça se régule petit à petit. On se fait à tout, et le corps humain est quand même assez bien foutu. Mais effectivement, la circulation sanguine, c'est un petit problème. Mais le gros problème, c'est plutôt l'ostéoporose. Alors, l'ostéoporose, vous prenez ça surtout chez les personnes âgées. Qu'est-ce que c'est? C'est le problème pour le calcium de se fixer sur les os du squelette. Et donc, le squelette devient fragile, cassé. Malheureusement, dans l'espace, le calcium ne se fixe pas. On a beaucoup de mal à se fixer sur les os aussi. Alors, on est bien embêté parce qu'on n'a pas trop de solutions pour les vols à longue durée. Si un jour, et ça on prend bien le chemin, on va sur Mars, ce sera un voyage d'un ou deux ans. Et si on est en impesanteur pendant 1 ou 2 ans, c'est des vieillards qui vont arriver sur la planète et qui, entre les jambes, vont se casser du fémur. Donc, ça va être terrible. Hein. Donc, il faut qu'on trouve des systèmes. Le système serait peut-être d'envoyer un vaisseau spatial vers Mars qui se tournerait sur lui-même pour créer une pesanteur artificielle. Voilà. Ça, on en voit beaucoup dans les films de science-fiction. Ce serait une solution, parce que là, on ne sait pas trop quoi faire. Le but d'envoyer tous ces gens-là, c'est pas de faire de la gym, c'est de travailler, de faire des expériences en impesanteur, parce que les corps ne réagissent pas du tout pareil. Donc il y a des tas d'expériences imaginées et à faire sur avec ces conditions d'impesanteur. Thomas Pesquet a une 50aine d'expériences à réaliser pendant 6 mois, et certaines régulièrement, tous les jours. Il faut se distraire aussi. En fait, c'est les 3-8. 8 heures de sommeil, 8 heures de boulot et 8 heures pour manger, pour se distraire, pour bouquiner, pour regarder par le hublot. Alors, il y en a un Canadien qui a amené une guitare et il a fait un carton sur Internet. Il a fait le buzz, comme on dit. Parce qu'il a. Alors, je ne sais pas si on va l'entendre, moi. Il faut l'entendre dans l'oreille. Ça, c'est des images d'ISS en train de tourner, d'accélérer. Ah oui, vas-y. En plus, moi, j'ai déjà vu. Un qui reconnaisse ?
Super.
Légèrement changer les paroles. Ami Soyuz. Alors, c'est une chanson de qui David Bowie. Voilà. Ouais. David Bowie pour les Français. Donc. Voilà. Qui a été célèbre avant de casser sa pipe. Hein. Parce que, vous voyez, ça a été fait bien avant qu'il décède l'an dernier, David Bowie. Et c'est une chanson qui parle du spatial. Hein. Space Odyssey. À la guitare, là, donc là, il avait bien préparé son coup à l'avance. Hein, il avait enregistré tout ce qui était bande de son sur Terre. Et puis, dans la station, il a enregistré la partie voix. Hein. Voilà.
C'est super, ouais.
En plus, je crois que je suis déjà arrivé à 3 quarts d'heure.
Non, mais tu peux pas plus, puisque là.
Ouais.
Là, c'est 2 heures, donc, normalement, non
c'est oui. C'est pas en vol, c'est le long respect de l'horaire.
C'est pas en vol, mais c'est vrai. Bravo. Alors, ceux qui veulent voir comment on joue au foot à l'impesanteur. Voilà.
Cool.
Wow. Il s'amuse bien, hein. Ah, il travaille pas. Hein. C'est pas simple. Hein.
Non. Mais ça veut dire que ils sont en repos tous les trois ensemble ou ils se
relaient.
Oui. Ils se relaient pour.
Non. Ah. Non. Ils dorment tous en même temps.
Ah d'accord. Okay. Ouais. D'accord. Ils font les 3 buts ensemble. Alors.
C'est ça. Oui, ben, pour qu'il y ait un minimum de
relations.
Voilà. Alors, pour voir si vous avez bien suivi, donc, je vais vous faire un petit interro pour finir. L'astronaute qui est ici, il est où là, celui-là ?
Sur la Lune.
Oui, mais il est où là ? Sur la Lune. D'accord. Bon. Est-ce qu'il est dans le vide ?
Non.
Oui, très bien. Il est dans le vide parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère.
Ah, ben oui. L'astronaute de l'ISS est dans l'impesanteur.
Non. Non, parce que la Lune vous attire.
Voilà.
Même si elle vous attire moins, vous ferez des grands bonds et vous retomberez. Ouais. Donc, effectivement, il n'est pas en impesanteur. Déjà, pour vous montrer que le vide et l'impesanteur, ça n'a rien à voir. Hein ? Là, ici. J'ai un astronaute qui est dans la station spatiale. Est-ce qu'il est dans le vide ?
Non.
Non, puisqu'il a pas de scaphandre, il respire comme vous et moi. Est-ce qu'il a un impesanteur ?
Oui.
Ben oui.
Il
a un impesanteur dans la station spatiale qui tourne très vite autour de la Terre. Voilà. Et j'ai 2 autres images. Ça, ce sera complet. À mon à droite, j'ai un satellite. Ça, c'est un satellite de télécommunication qui tourne autour de la Terre. Est-ce qu'il est dans le vide ?
Oui.
Est-ce qu'il y a un impesanteur ?
Non. Dans le vide.
Eh bien, c'est un impesanteur. Tout ce qui tourne autour de la Terre, à partir du moment où ça tourne, c'est un impesanteur. Où ça a la vitesse suffisante pour rester en orbite, c'est un impesanteur. Et c'est pour ça qu'un astronaute qui sera dans un truc comme ça, il y a un impesanteur. Et la fusée Ariane qui est au décollage, là, est-ce qu'elle est dans le vide ?
Non,
elle est dans l'atmosphère. Et est-ce qu'elle a un impesanteur ?
Non,
vu qu'elle est en train de décoller, elle est toujours attirée par la Terre, elle a du mal à s'en arracher. Donc voilà, je vous ai présenté les 4 cas. Hein, pour montrer que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Ouais, alors, j'ai qui avait prévu que les liquides se mettaient en boule. Le whisky aussi. Oui. Le whisky aussi.
1 000 millions de savoir.
C'était un beau précurseur.
Ah oui, il a bien vu. Hein.
Oui.
Les sorties extravéhiculaires. Ben, voici les sorties extravéhiculaires des astronautes. Alors ça, c'est génial. Thomas Pesquet, il a fait deux sorties de 6 heures. Ça, c'est génial. Regardez, il est à 400 km du sol, 28 000 km à l'heure. Il est attaché par un petit cordon.
C'est tout ?
Oui, oui, oui.
Attention, vous avez un malade. T'avais un malade, lui là. Lui il n'avait pas de cordon. Lui il avait sur le dos un sac à dos, muni de 28 petites cuillères et avec des petits joysticks là, et il s'est baladé comme ça. Et il est allé loin même. Voilà. Il faut avoir confiance au matos que
vous avez. Ouais, mais de toute façon, quand vous revenez, vous êtes différent. Vous pouvez plus être le même sur Terre.
C'est génial.
Vous ne pouvez pas, c'est pas possible.
Imaginez, vous êtes à 28 000 km/h.
Vous vous rendez compte ?
Avec, vous êtes votre propre vaisseau spatial.
Il a l'impression d'être Dieu. Je suis, je domine. Alors, pour parenthèse.
Mais on fait plusieurs fois, ils ont dit, il n'y a jamais d'accident. Ils ont dit quand même, bon, si je joue avec le feu, c'est mieux quand même qu'il y ait un petit cordon.
Oui, oui.
Voilà. Une heure et demie pour faire le tour de la Terre.
Alors, oui, justement.
Une heure et demie.
L'ISS, alors, on a eu le moment où...
Tous les soirs. Tous les soirs, elle passait, à l'époque. Mais vu que la Terre tourne en même temps, c'est jamais à la même heure. Alors, j'ai regardé ce soir si on pouvait la voir. Parce que vous avez un site internet, il y en a plusieurs même, il y en a un qui s'appelle Heaven's Above, où vous pouvez taper le nom de votre village. Comme ça, vous avez les coordonnées, longitude, latitude, et on vous donne les heures de passage. Alors ce soir, ça passe à 5h du matin.
Voilà. Bon, c'est
pareil. À 5h du matin.
Et
alors là, brillant, c'est terrible. Vu que c'est un stade de foot qui passe dans le ciel, qui renvoie les lumières du soleil, vous avez un point mais aussi brillant que Vénus, qui passe dans le ciel. Très, très, très brillant, et qui passe en quelques minutes. Sans clignoter, sans faire de bruit, vu qu'on est dans le vide. Bon, mais ce soir, en plus, il y avait des nuages. C'est pas total.
Il faut connaître la trajectoire.
On connaît parfaitement la trajectoire. Ça, c'est... Donc, 16 fois le tour de la Terre en 24 heures. Ils ont 16 couchers et levées de soleil en 24 heures. C'est quand même magique. Hein.
Ah oui, 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 oui.
Voilà, je vous montre, parce que j'accélère un peu, on arrive à la fin. Hein. Voici des belles photos prises depuis. Voilà, là vous avez. Alors, celle-là est magnifique.
Sur Orbe Boréal.
Bon, déjà, là, noir, c'est l'Atlantique. Là, vous reconnaissez la Bretagne avec Bordeaux et Toulouse. Hein, comme vous avez la côte basque. Là, vous avez l'Angleterre. Et là, vous avez l'épaisseur de l'atmosphère, minuscule, avec une splendide aurore polaire. Et au-dessus, c'est le vide de l'espace. C'est assez magnifique. Ça, c'est le sud de l'Italie. Avec la Sicile.
Oui, oui.
Voilà. C'est beau, hein.
Ouais, l'Égypte.
L'État d'Unis. Voilà ce que vous voyez dans le ciel quand ça passe. Vous ne voyez pas le trait. Là, j'ai fait un appareil photo, j'ai fait clic et clac quelques secondes après. Donc, vous voyez un point passer, bien brillant. Parce que regardez ici, ceux qui font de l'astronomie, c'est les Pléiades. Et ici, c'est Aldébaran du Taureau. Vous voyez que c'est plus brillant qu'Aldébaran. Voici la station spatiale qui passe ici dans le Taureau. Et une autre fois, j'ai pris cette photo, c'était dans la Grande Ourse. Vous reconnaissez la Grande
Ourse ? Ah oui, oui, oui. La branche,
là. 7. Voilà. Et là, il y a deux traits. Je ne sais pas si vous voyez deux traits décalés. Deux traits décalés, comme ça. En fait, c'était la navette spatiale qui allait s'accrocher à l'ISS. Et donc, il suivait, vous avez un gros point et un petit point.
C'est magnifique.
Ah, ça c'est
une très belle photo prise par les astronautes en pose, en tout tourne. Je ne vous explique pas parce que c'est très compliqué à comprendre ce qui se passe, mais c'est très beau.
C'est de l'art.
Ça c'est de l'art, tout à fait.
Ah oui, non, mais.
C'est très, très beau. Voilà, regardez les Soyuz immobiles, des étoiles qui tournent. Voilà, je vous remercie. Je suis à l'heure. Olivier et Mico. Voilà. Bon, alors donc maintenant on va passer Mico pour
les questions.
C'est pas une question, mais on a une chance fantastique d'être vivant dans cette époque.
Exactement, c'est vrai que ça, c'est assez incroyable de vivre un truc pareil. Hein, moi, j'ai pas vu Marc Armstrong sur la Lune, mais je verrai Taïkonaut, donc j'espère. Mais c'est génial, bien sûr. C'est une aventure extraordinaire.
Comment vous voyez l'avenir de l'homme, l'homme dans l'espace? Pas dans les 10 ans.
Vous avez une autre heure devant vous, alors?
Oui, ouais, volontiers, volontiers. Voilà.
Moi, personnellement, je pense qu'on n'ira pas très loin. Au niveau de la vie. Pourquoi on n'ira pas très loin? Pour une raison très simple, c'est que tout est loin. Tout est très loin. La Lune, Armstrong, il a mis 3 jours pour y aller. C'est-à-dire qu'il va vite. Il y a des vaisseaux spatiaux qui vont très vite. 3 jours pour aller sur la Lune, c'est l'objet le plus près de la Terre. Hein? Mars, ce sera 8 mois. C'est la planète la plus près.
Et le retour?
Le retour, ça fera 8 mois de plus. Si vous voulez aller jusqu'au bout du système solaire, donc la planète Neptune à peu près, il vous faut 10 ans. 10 ans de voyage et vous êtes toujours dans le système solaire. Autrement dit, si vous voulez faire comme dans les films Star Wars, Star Trek et compagnie, vous balader vers d'autres systèmes planétaires, d'autres étoiles, il vous faudrait des milliers d'années. Vu que nous vivons 100 années, donc,
on n'a pas trouvé les...
Alors, il y a des gens très audacieux qui parlent de vaisseaux génération. Vous construisez des vaisseaux gigantesques dans lesquels vous en mettez une biosphère entière avec 10 000 personnes, et puis les arrière-arrière-petits-enfants arrivent.
Vous transportez vos morts.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Mais il faudra bientôt quitter la Terre.
Voilà, ça reste bientôt complètement hypothétique. Ce qui veut dire que si on ne fait pas de progrès dans la vitesse de nos fusées, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et malheureusement, depuis 50 ans, on n'a fait aucun progrès. On a fait des tas de progrès informatiques, à miniaturisation, ce que vous voulez. Mais là-dessus, les fusées vont à la même vitesse que celle de l'homme à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que la vitesse qui est donnée aux fusées, c'est pas tellement les moteurs qui donnent la vitesse aux fusées. Les moteurs, ils permettent à la fusée de quitter la Terre. Mais qu'est-ce qui donne la vitesse aux fusées? La Terre elle-même, sur son orbite. Et donc la vitesse de la Terre, c'est quoi? C'est 30 km par seconde. Je veux dire, c'est fabuleux. Une seconde, je fais 30 km. Il faut 3 jours pour aller jusqu'à la Lune. Il faut 10 ans pour aller jusqu'à Neptune, comme je disais. Et la plus proche étoile, 40 000 ans.
Il y a un milliardaire russe qui va faire un système avec un rayon...
laser.
Un rayon laser, oui.
Qui doit pousser une voile.
Voilà.
Voilà. Oui, mais dans la voile, vu que c'est une voile gigantesque, déjà, vous mettez un microsatellite où il y aura dedans, pas beaucoup de monde, un appareil photo. Et donc vous allez, grâce à ce projet-là, pouvoir, on va dire, arriver à Proxima du Centaure, qui est la prochaine étoile, assez vite, mettons, une centaine d'années.
Ah bon, quand même.
Ah oui, quand même. Mais c'est assez vite, par rapport à 40 000 ans. Le gros problème de ce genre de vaisseau spatial, déjà, c'est que personne ne monte dedans, parce que c'est tout petit. Et puis, c'est que vous passez à Proxima du Centaure comme une balle. Et encore plus qu'une balle. Une balle, ça rame. Donc vous avez le temps de faire une petite photo floue, et puis c'est fini. Non seulement vous ne vous arrêtez pas, mais vous ne revenez pas non plus. Donc ça reste, voilà ma réponse, très hypothétique. Il se peut que l'espace et les voyages interstellaires soient à jamais impossibles pour les hommes et peut-être pour toute autre forme de vie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Je veux dire, il peut y avoir de la vie partout. Mais on se serrera peut-être la main, ça ne serrera jamais la main,
voilà. De l'autre. Ou on n'a pas compris ce qu'ils ont déjà compris.
Il ne faut pas bouger.
Non, mais l'avance dans le temps, dans la
technique. Ah oui, alors là, voilà, les Star Trek, ils font même téléportation, c'est dormi. Oui. Pour l'instant, on n'en voit pas le début. On essaie de faire des progrès en physique, partout. Non, je vous dis, on n'a pas fait de progrès. On rame toujours autant. On va à 30 km par seconde.
La science-fiction, c'est pas trop trompé, hein, quand même, par rapport à cette chose qui arrive maintenant.
C'est-à-dire? dire.
Mais il y a eu des films de fait il y a 30, 40 ans où on retrouve des choses assez similaires maintenant. Ils étaient déjà.
Oui.
C'est vrai.
Oui. Enfin, je ne sais pas, là, il faudrait voir film par film.
Oui.
Les films, ils se sont bien plantés quand même.
Oui. La solution sera peut-être dans le carburant et plus au-delà dans le mode de propulsion.
Eh bien, je ne pense pas. Parce que le gros problème, c'est que même si on allait à la vitesse de la lumière, imaginons,
hein,
300 000 km par seconde, c'est-à-dire 10 000 fois plus vite que ça, hein, même à cette vitesse-là, vous allez me dire, là, ça va vite. Hein. Pour aller sur la Lune, c'est une seconde. Ça va vite.
Hein. Pas le temps de descendre.
En vos élèves, cela fait, mais je passe ça. Pour aller jusqu'à Neptune, vous allez plus vite. C'est vrai qu'à la limite, vous partez le matin, vous rentrez le soir, c'est possible, hein, 4 heures. Mais pour aller vers les autres étoiles, pour aller parler avec les autres, la première étoile, c'est 4 ans. La première, la galaxie, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. Pour la traverser, à la vitesse de la lumière, il faut 100 000 ans. C'est simple. C'est pour vous montrer que les distances sont colossales. Et ça, on n'en a pas idée, vraiment. C'est colossal. Donc, les distances entre les étoiles sont énormes. Donc, quel que soit le mode de propulsion...
Oui, mais ce dont on parle aujourd'hui, il y a 50 ans, on ne l'imaginait pas.
C'est vrai. Non, mais même, donc... je vous dis, mais imaginons qu'on aille à 300 km seconde, je vous dis, on ne peut pas aller plus vite. Même malgré ça... On ne pourrait pas aller, notre vie humaine, en tout cas, ne suffit pas.
C'est dans notre structure de raisonnement actuelle.
Oh, peut-être. Alors, il y en a qui parlent, oui, qu'il faut passer par les raccourcis, spatio-temporels, il faut passer dans un trou noir. Je ne suis pas sûr qu'on ressorte en mon état. Mais...
on en rit. Là.
Ah, vous avez raison. De toute façon, Clément Madère, qui habitait Muret, non ?
Oui.
On lui avait ri, il avait dit, mais jamais de la vie, il est plus lourd que l'air voleront. Il y est arrivé. Est-ce qu'on arrivera à tout ?
Certains s'avancent en disant qu'il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur la Terre.
C'est vrai. Voilà. Il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Ce qui veut dire qu'il va y avoir du monde. Question.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure de
l'ostéoporose.
L'ostéoporose, merci. Alors, il n'y a pas très longtemps, juste à une émission qui concernait Thomas Pesquet, j'ai appris que les astronautes ne pouvaient pas être trop vieux, ni trop jeunes. En fait, c'était entre les deux parce que ça les abîme, le fait d'aller dans l'espace. Et ça les abîme de façon définitive. Et ça, on ne le dit pas trop. Est-ce que c'est vrai?
Oui, parce que c'est politiquement assez incorrect. C'est-à-dire que Thomas Pesquet, c'est quelqu'un quand même qui est assez en forme, c'est-à-dire que c'est tous ces tests-là, il va revenir sur Terre et son corps aura vieilli d'une dizaine d'années, en 6 mois. D'accord ? Voilà. Et ça, on n'en parle pas trop. C'est qu'il y a une autre réflexion pour les voyages dont on parle. Il se peut que l'espace ne soit pas du tout fait pour l'homme. C'est un milieu hostile. Hein, si vous envoyez des hommes sur la Lune, ils ont dépassé ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen. Ceinture de Van Allen, c'est toute une protection magnétique autour de la Terre qui nous protège des rayons cosmiques les plus nocifs. Les rayons X, les rayons gamma, toutes ces choses-là. Sur la Lune, vous êtes exposé à tout ça. Vous avez beau avoir une combinaison, ces rayons, ils vous transpercent comme quand vous allez faire une radio à l'hôpital. Hein. D'accord ? Donc, si vous recevez trop de ces rayons-là pendant un voyage de plusieurs années, vous êtes mort. Voilà. Et ça, on n'a pas de solution. La seule solution que nous donnent certaines personnes, c'est d'emporter dans les vaisseaux spatiaux une pièce étanche avec des cloisons en plomb comme ça. Ça fait lourd à décoller. Voilà.
Mais tout en restant sur
Terre. Et le plomb, c'est dangereux pour la.
Oui, ils ne sont pas stériles. Hein. Tout à fait. Ah non. Mais par contre, effectivement, ça détruit la structure moléculaire même du corps humain. Hein. Et vous avez plus de chances de développer un cancer en ayant passé 6 mois dans l'espace qu'en étant resté sur la Terre. Ce qui va donner des raisons de plus à certaines de ne pas y aller.
Ça, c'est sûr.
J'ai une question, puisque notre thème de ce soir, c'était l'homme dans l'espace. Ouais. Alors, c'est un peu tabou, ma question. Enfin, du moins, c'est tabou dans la... On n'en a pas trop parlé, on ne sait pas exactement où a été la vérité, si oui ou si non. il y a eu des équipages mixtes.
Ah, je la vois arriver, celle-là.
Oui, oui, oui.
Il y a eu des équipages mixtes. Et, je veux dire...
est-ce qu'ils ont fait un crack ?
Oui, il semblerait, effectivement, qu'il y ait eu des relations sexuelles entre hommes et femmes. À une époque, ou d'une fois que ça a été expérimenté.
C'est une bonne question, hein, c'est une bonne question. Officiellement, il n'y a pas de réponse.
Oui, officiellement.
Si vous voulez, il n'y a rien à voir.
Bon. Mais, d'État.
Ouais,
mais sous le manteau, sous le manteau.
Oui, il a dû se passer des choses. Mais même sans parler de d'équipage mixte.
Des animaux.
Vous savez, le mot d'homosexualité.
Relations sexuelles sous le manteau.
Donc, on a tout fini, non, Gaël, pas ce soir. Ah, oui, alors on a fait reproduire des salamandres, par exemple. Oui, non, pour vous dire que ça marcherait très bien, hein, il n'y a pas de souci. Ça, il faut savoir où s'accrocher, par contre. Ça va devenir vite rock'n'roll. Voilà. Question de liquide. Hein. Bien mettre la seringue.
Un seul mousse qui s'arrive à la station, c'est déjà sexuel. Hein.
Ben, c'est vrai.
Mais pour toutes ces découvertes, on n'est pas tenu et obligé d'aller, l'homme, enfin, la conférence c'est l'homme dans l'espace.
Oui.
Déjà à l'heure actuelle, on a des renseignements fantastiques.
Par des robots.
Oui.
Exactement. Mais là, pour ça qu'il y a des gros débats.
Sur notre bonne vieille planète, on peut probablement répondre à des tas de questions qu'on se pose en ce moment.
C'est pour ça qu'on revient à la petite question qu'on a effleurée au début. Est-ce que c'est vraiment rentable d'envoyer ISS dans l'espace? Est-ce qu'il est vraiment rentable et raisonnable d'envoyer des hommes sur Mars? Parce que c'est pour plusieurs années, avec tous les risques dont on vient de parler, beaucoup de gens répondent, les robots, eux, ils risquent pas les rayons cosmiques, et ils peuvent rester sur place, ils n'ont pas besoin de le voyage de retour. Et c'est vrai que le vaisseau... Les robots, c'est possible. Le vaisseau Curiosity, qui est à la cité de l'espace, c'est une réplique du robot qui est sur Mars, c'est un robot qui fait très bien son boulot pour l'instant. Qui analyse très bien chimiquement les roches qu'il récupère. Donc ça peut suffire. Oui, c'est vrai, que... la plus-value n'est pas énorme, n'est pas flagrante.
Parce qu'au fond, c'est satisfaire une curiosité qui nous taraude. Enfin...
C'est propre à l'homme, ça.
Mais voilà, alors justement, il se peut que l'homme aille quand même sur Mars, malgré tout ce qu'on vient de dire, parce qu'il est curieux. Hein.
Voilà.
Et parce qu'il pourra le faire. S'il peut le faire, il le fera. Même s'il ne doit pas le faire. Vous comprenez ?
Oui.
Ce que disent les enfants.
Voilà, c'est interdit, je vais le faire.
Et là, ça prend une portée philosophique, parce que...
C'est ça, c'est
vous,
ça.
Puisque vous parlez de robots, quand même, à cause de l'éloignement, qui semblerait, dans l'état actuel des technologies, infranchissable, on peut quand même applaudir la sonde Rosetta et son enfant Philae.
Qui ont fait un sacré voyage.
Ah oui, ça c'est fantastique.
Ça c'est une prouesse technologique énorme. Se poser sur un petit truc minuscule...
Ah, oui.
Qui n'a pratiquement aucune gravité.
C'est incroyable. C'est
vraiment se faire happer par ce peu de gravité de ce petit corps, ça c'est quand même technologiquement génial. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux envoyer des robots que des hommes, c'est moins dangereux. Voilà.
Est-ce que vous concernant
les personnes privées qui ont fait une fusée ?
Non.
Ou qui les fabrique
actuellement.
Ah oui, parce que ça, je ne l'ai pas abordé, mais c'est vrai que... Oui. Elon Musk, par exemple, qui fait des... C'est-à-dire que les États-Unis, la NASA, vous avez compris, n'ont plus de fusées à l'heure actuelle. Et donc, ils se retournent vers des consortiums privés de développement spatiaux. Et effectivement, Elon Musk, qui est un Africain du Sud, d'ailleurs, est en train de... Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Avec son entreprise SpaceX. D'imaginer des vaisseaux spatiaux, certains réutilisables d'ailleurs, qui pourraient réatterrir au même endroit, pour envoyer des hommes dans l'espace, et même lui, il rêve de Mars.
Et est-ce que ça, c'est l'avenir ?
C'est l'avenir. Oui, c'est possible. Tant que c'est possible, comme je disais, on le fera, hein, même si c'est dangereux. Voilà. Comme la bombe atomique. C'est possible, on l'a fait.
Il a quand même réussi l'exploit de faire décoller et atterrir.
Oui, tout à fait, mais il va y arriver, il n'y a pas de souci. On y arrivera. On ira sur Mars, on ira où vous voulez. Mais pourquoi, en fin de compte, je ne sais pas. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Je vous remercie de votre attention.
Oui, 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 oui. 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 Oui.
Merci, merci, toujours aussi remarquable, passionnant de pédagogue. Et dans notre voyage, qui a été de cette soirée vers une autre planète, on est là à la côté. Et pour ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent,